Affaire Farewell, une taupe au KGB. Un soir de l'année 1970, à quelques mois seulement de la fin de sa mission en France, Vetrov se saoule pour noyer son chagrin. Il ne veut pas rentrer en Russie. Il aime trop la liberté. Sa femme aussi s'est habituée à cette vie confortable. À l'approche de leur départ, le couple se dispute régulièrement. Malgré son état d'ébriété, le Russe décide d'aller faire un tour en voiture. Il quitte la capitale pour se diriger vers la campagne française, au nord de Paris. Arrivé à proximité de Montsou, il commet une imprudence. Il rate un virage et détruit sa voiture de fonction, une Peugeot 404 verte, en versant dans un fossé. Vetrov survit miraculeusement à l'accident. Il n'a que de légères commotions. Par chance, il n'y avait aucun témoin. Le fonctionnaire russe vient de se mettre dans un sacré pétrin. Ce n'est pas sa voiture qui l'a cassée, mais celle qui lui a été confiée par son gouvernement. Si le KGB venait à l'apprendre, pire, s'il le savait sous pendant qu'il était en mission, alors Vetrov pourrait dire adieu à sa carrière. Il marche jusqu'à une cabine téléphonique pour contacter la seule personne qui pourrait lui sauver la mise, son ami Jacques Prévost. Ce dernier, au nom d'une amitié qui dure à présent depuis 5 ans, accepte de faire réparer la voiture à ses frais, en toute discrétion et au plus vite. Un geste que le Russe n'oubliera jamais. Évidemment, Jacques Prévost est un honorable correspondant pour les services secrets français. On suppose que ces derniers ont permis que la voiture soit réparée rapidement. Ce service discret, qui sauve la carrière de Vetrov, explique sûrement pourquoi Vetrov se tournera vers la France quelques années plus tard, lorsqu'il sera désenchanté par le paradis soviétique et l'URSS. Nous sommes à présent en 1970. De retour à Moscou, le couple Vetrov retrouve un bel appartement dans le beau quartier où réside une partie de la nomenklatura soviétique. Le lieu a beau être de qualité, il n'est rien comparé au sentiment de liberté éprouvé en France. À peine ont-ils posé leurs valises qu'ils ont déjà le mal du pays. Vetrov repense à tout ce qu'il a impressionné à Paris, ce confort qu'il ne retrouvera jamais dans ce pays si froid. Il se souvient de ces matins où, de sa fenêtre, il pouvait voir l'ancien ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, prendre lui-même sa voiture pour aller travailler. Ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour le Russe, c'est le symbole même d'une liberté qu'il ne connaîtra peut-être plus jamais. Ce n'est pourtant pas faute d'essayer. 2 ans plus tard, le KGB le convoque pour lui proposer une mission de chef de poste au sein du consulat général soviétique à Paris. Vetrov est ravi, mais la promesse de ses supérieurs ne peut être tenue. Vladimir est fiché par la DST. La France refuse de lui délivrer un visa. Une fois de plus, l'homme derrière le vil espion est blessé. Le voilà bloqué dans un poste qui ne l'intéresse plus vraiment. Il a le sentiment de végéter. Il ne trouve plus aucun sens à son travail et perd petit à petit goût à ce qui faisait les joies de son quotidien. Sa femme n'est plus heureuse en Russie. Il finit même par se demander si elle est heureuse avec lui. Le couple commence sérieusement à battre de l'aile. Vetrov sombre dans l'alcoolisme. Pour se remonter le moral, il essaye de rentrer en contact avec son ami Prévost. Ce dernier, dans le cadre de son travail de commercial, fait régulièrement des voyages à Paris et à Moscou. Les deux amis se retrouvent un soir dans l'appartement de Vladimir. Ils mangent, partagent la vodka, beaucoup de vodka. L'ancien fonctionnaire français dira un jour avoir été impressionné par cette fontaine disposée chez Vetrov et qui devait au moins contenir 2 litres d'alcool fort. Prévost s'inquiète de l'état de santé mentale de son ami. Ce dernier, avec un peu de nostalgie dans la voix, lui promet qu'un jour, il paiera sa dette pour les réparations de la voiture. Ce jour finira bel et bien par arriver. Il faudra attendre encore quelques années de plus et des déceptions supplémentaires. Les dirigeants du KGB sont bien conscients que leur agent est mal en point. Redoutant sa perte d'efficacité, ils essayent de le remettre un peu sur les rails. Durant l'année 1973, il est envoyé en Suisse. Sa mission ne dure cependant qu'une semaine. Le 1er avril 1974, Vladimir est affecté à un poste de représentant commercial soviétique à Montréal. C'est une mission très importante. Son statut d'ingénieur est une couverture pour qu'il puisse réaliser son véritable travail, officier du renseignement. L'URSS a accumulé un important retard technologique. Pour le rattraper, le pays a besoin des copies de certains plans de construction et surtout du matériel provenant de l'Ouest. Vetrov doute de plus en plus de cette doctrine communiste dans laquelle il a toujours baigné. L'agent du KGB se démotive. Son alcoolisme a encore monté d'un cran. Désormais, il boit du matin au soir. Il roule dans les rues de Montréal complètement saoul. Son supérieur rédige un rapport très négatif à son encontre. 9 mois après son affectation au Canada, Vetrov est renvoyé en URSS avec les réprimandes de sa direction. Pour cette conduite impardonnable, on le placarde au fond d'un bureau. Il est nommé chef adjoint du département d'information, un poste de gratte-papier qui l'exaspère au plus haut point. Ses collègues l'évitent. On ne s'adresse à lui que pour lui demander des rapports ou de signer diverses autorisations. Vladimir lit, écrit, tamponne, lit, écrit, tamponne. Une routine insupportable qui ne va pas en s'arrangeant avec le temps. Un jour, il finit par découvrir la liaison cachée de sa femme. Vetrov voudrait bien se séparer de Svetlana, mais il ne peut pas. Le divorce est considéré comme une atteinte à la sacro-sainte famille par les dirigeants du KGB. Comme le dit un dicton russe, on se marie une fois et on pleure toute une vie. Vetrov n'en finit pas de pleurer. Il a besoin de retrouver un peu de sérénité. Un été, il fait l'acquisition d'une petite maison de campagne, une datcha. Il s'y réfugie durant ses congés, écrit des pamphlets à l'encontre de son régime. Il émet même une critique à l'encontre du KGB qu'il dépose sur le bureau de ses supérieurs. Il les alerte sur la situation catastrophique de son service, mais personne n'en tient compte. Vetrov est condamné à s'ennuyer dans un bureau. Il ne lui reste plus que la vodka pour se consoler et les bras de son amante, la séduisante Ludmila. Elle est traductrice au sein de son département et très attachée à son pays. Vetrov évite de partager avec elle ses rancœurs, choisissant plutôt la tendresse. Il n'en est pas plus heureux. Un soir, lors d'un énième moment d'ivresse, il fomente un plan pour se venger de ce pays qu'il considère pourri de l'intérieur. Il désire ardemment détruire ce système nuisible qui a fait l'impasse sur l'Union soviétique, pour reprendre ses propos. Une idée émerge. Passer dans le camp ennemi et fournir à la DST toutes les informations qu'il a en sa possession sur les différents services du KGB et ses activités. Pour cela, il doit rentrer en contact avec son ancien ami Jacques Prévost. La voilà, sa contribution pour rembourser cette dette. Il sait que Jacques est en lien avec la DST. Il passera donc par lui pour transmettre ses documents classés secrets. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Vetrov se sait surveiller. Il ne peut pas essayer de rentrer en contact avec une personne en France avec une simple lettre postée depuis Moscou. Le courrier est surveillé. Heureusement, il peut compter sur son beau-frère. Ce dernier fait partie d'un orchestre. Il fait la tournée des pays de l'Est en novembre 1980. Il doit quitter Moscou pour Budapest. Vetrov lui confie une lettre adressée à Prévost. Elle suit son chemin jusqu'à Paris. Le mercredi 12 novembre, Jacques réceptionne le courrier. Son contenu est assez énigmatique. Son ami russe lui annonce qu'il est sain et sauf et demande à ce qu'il puisse prendre le temps de lui passer un coup de fil lorsqu'il se retrouvera à Moscou. Dans un premier temps, Jacques fait son devoir. La patrie passe avant les amis. Il informe la DST de cette volonté de prise de contact. Il n'est pas autorisé à y répondre tout de suite. À Moscou, Vetrov lambine dans son bureau. Il s'inquiète de ne pas recevoir de nouvelles de Prévost. Un jour de février 1981, il rédige une seconde lettre dont le contenu est plus évocateur. Il parle de vie ou de mort. Lettre qu'il transmet ensuite à un ingénieur français rencontré à l'occasion d'un salon d'électronique. Suite à ce courrier, après avoir reçu l'autorisation de ses supérieurs, Jacques se rend à Moscou. Il y trouve un homme particulièrement fatigué, le physique marqué par l'alcool. L'échange n'est pas long, il se déroule dans une voiture. Vetrov confie à son ami une liasse de documents classés secret défense. Ils seront transmis à la DST. Cette dernière décide de faire confiance à Vladimir, qui promet d'apporter d'autres documents compromettants.